Sur la première, CQFD.
On l'appelle chemsex, contraction de sexe et de chemicals. Le chemsex, Stéphane Delétreau, c'est l'usage de drogue dans un contexte sexuel.
Oui, et ça n'est pas nouveau, me direz-vous, de mêler drogue et sexe. Hein, vous y ajoutez rock'n'roll et on dirait un slogan des années 70. Ce qui est nouveau avec le chemsex, c'est selon les spécialistes, la conjonction de deux phénomènes, l'apparition de nouvelles drogues de synthèse et de nouvelles technologies, soit un accès facilité aux produits et aux partenaires. Alors ces produits vont booster la libido, le plaisir, l'endurance et permettre de maintenir une activité sexuelle pendant des heures, mais ils vont s'avérer rapidement très addictifs. Autrement dit, il va falloir augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets, sans parler des risques à court terme tels que overdose ou infarctus. Bref, le chemsex est considéré outre-Atlantique comme un problème de santé publique.
Et une des spécialistes avec nous ce matin, Claire Fetenau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute au Checkpoint Vaud de la Fondation Profa. C'est un centre de santé qui s'adresse aux hommes qui ont des rapports avec des hommes, ainsi qu'aux personnes trans et leurs partenaires. Alors, Clara Fetenau, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que si drogue et sexe, comme le disait Stéphane, c'est pas très très nouveau. Ce qui change avec le chemsex, c'est la nature des produits et aussi les nouvelles technologies.
Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que le fait d'associer des substances avant ou pendant le sexe, c'est quelque chose de très commun, qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les époques. Maintenant, là, ce qui signe vraiment le phénomène du chemsex, c'est l'apparition depuis une dizaine d'années de ces nouvelles substances de synthèse, notamment les catinones de synthèse, qui inquiètent particulièrement par leurs effets puissants et notamment leurs effets addictifs, mais aussi par le fait qu'elles sont de plus en plus utilisées par injection, et puis aussi leur diffusion très facilitée via Internet d'abord, parce que effectivement elles sont facilement accessibles sur Internet, mais aussi leur popularisation, puis presque leur banalisation dans la communauté gay via les applications de rencontres qui permettent assez rapidement, puis de façon démultipliée, de mettre en contact des potentiels consommateurs.
Alors si elles sont utilisées ces drogues, c'est notamment parce qu'elles permettent des séances de plusieurs heures, voire de plusieurs jours et avec de nombreux partenaires.
Oui, alors de plusieurs heures, effectivement, des longues séances, par contre avec de multiples partenaires, pas forcément. C'est vrai qu'on a un petit peu en tête la caricature de la fête privée qui est organisée chez un particulier avec de nombreux partenaires, parfois jusqu'à une vingtaine, qui se succèdent sur plusieurs jours. Alors ça existe, mais c'est pas la façon la plus fréquente de pratiquer le chemsex. Finalement, la façon la plus fréquente, ça va être souvent dans un contexte privé, en couple, avec un nombre restreint de partenaires, à deux ou à trois, puis avec des partenaires en fait connu et habituel.
Alors, vous l'avez dit, on parle de drogue de synthèse, les catinones notamment. De quoi s'agit-il et quels sont leurs effets?
Alors, les catinones, ce sont des dérivés, en fait, de la plante de cat, qui sont synthétisés, avec un nombre de variants très important, par des laboratoires en général clandestins, étrangers. Alors, leur nom un peu improbable, c'est la 3MMC, la 4MMC, la 4MEC, sont des dérivés aussi de la méphédrone. Leur particularité, hein, c'est que c'est vraiment des substances qui vont être euphorisantes, désinhibantes, qui vont aussi augmenter, en fait, la sensation d'empathie, de connexion aux autres, de plaisir sexuel, de sensualité. Et puis elles vont augmenter aussi les performances physiques en termes d'endurance. Après, ce ne sont pas les seuls. Quand on parle de chemsex, souvent on parle aussi de polyconsommation. Donc il va y avoir aussi des prises d'autres substances comme le GHB, la kétamine ou aussi de la méthamphétamine et de la cocaïne.
Et ces effets de ces drogues de synthèse, elles durent peu de temps ou assez longtemps ou...
Non, elles durent quand même plutôt plusieurs heures. Après, avec des prises répétées. Hein. Effectivement, quand il y a une séance qui dure 24-48 heures, ce n'est pas 24-48 heures de sexe ininterrompu, il y a des pauses, mais justement il y a des prises aussi répétées de substances. Puis il y a quand même des effets aussi de descente qui peuvent être particulièrement éprouvants sur le plan psychologique ou sur le plan physique et qui là vont souvent durer quelques heures.
Et en plus elles sont hyper addictives.
Oui, alors ça effectivement, on commence, alors je vous disais c'est un phénomène qui est effectivement assez récent, d'une dizaine d'années, donc on commence à peine aussi à en voir l'impact sur les usagers, mais on voit qu'effectivement elles ont un potentiel addictif qui est très important, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des prises répétées, il y a une tolérance qui va s'installer, c'est le besoin en fait d'augmenter les doses de plus en plus pour retrouver l'effet. Il y a aussi des symptômes de sevrage qui vont apparaître quand les gens vont essayer d'arrêter ou de réduire, et puis un très fort craving, donc c'est l'envie irrépressible de reprendre prendre la substance ou aussi de repratiquer le comportement. Alors après, c'est pas tout le monde qui développe une addiction. C'est vrai que quand il y a une difficulté à arrêter, à réduire, ou qu'il y a de plus en plus de temps qui est passé au chemsex ou à y penser, ça doit vraiment être des signes d'alerte d'addiction.
Pour illustrer ça, je vous propose d'écouter Loïc, maintenant, qui a expérimenté ces drogues. Il témoignait une première fois dans l'émission Question Q.
À la base, il n'y a rien qui me prédestine à aller consommer.
Tu fais la fête comme n'importe quelle personne de ton âge à 18 ans.
Je fais la fête, j'ai réussi mes études, j'ai eu un bac avec mention, enfin, tout va bien, quoi. Milieu modeste, des parents ensemble, enfin, vraiment, tout roule. Et donc, je découvre ces choses-là, avec en plus mon bagage quand même médical, parce que je suis en études de médecine à l'époque. Puis ensuite, quand je prends des drogues beaucoup plus violentes, on va dire, même si je les mets toutes au même niveau, je suis en une école d'infirmiers, j'ai terminé l'école d'infirmiers. J'arrive à Lyon en 2015, et je commence à prendre là aussi des drogues pour sortir dans le milieu homosexuel. Puisque je fais la fête avec une bande d'amis, on est tous homo, on sort dans des soirées homo. C'est pareil, à nouveau, cette tendance. Sauf que moi, ça dérape très vite. Ça dérape très vite parce que quand eux prennent une extra, moi j'en prends trois. Quand eux veulent rentrer, moi je veux continuer, donc je pars en after. Ça va durer 4-5 mois peut-être. Et là aussi, je constate que j'ai une sexualité qui existe grâce aux produits à ce moment-là. Même s'il y a une sexualité en dehors, une forme de sexualité en dehors de ça, il y a quand même des choses qui se passent à ce niveau-là et une désinhibition qui permet certaines choses. Puis ensuite, je rencontre mon produit de choix. Je consomme mon produit de choix en contexte sexuel.
Et quel est ce produit de choix ?
De la 3M, qui est une drogue de synthèse, de la famille des kétinones, qui est un potentiel addictogène qui est extrêmement puissant, bien plus puissant que l'héroïne. Je prends ce produit en sniff d'abord, une, deux fois.
Donc on te le propose ?
Ouais. Le moment où ça rentre dans le contexte sexuel est violent parce que ça met un coup d'arrêt à la forme de sexualité que j'avais avant ça. Ça n'existe plus dès le départ, ça n'existe plus. Parce que ça m'a permis d'avoir accès à une sexualité, à la pénétration. Le mode de consommation que j'ai, il est bien sympa, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment violent pour moi. Donc du coup, très vite, moi je m'injecte. Il y a un mois qui sépare, même pas un mois qui sépare le moment où je découvre le produit et le moment où je me l'injecte.
Ouais, Clara Fetenaou, le parcours que vient de nous décrire Loïc, son parcours, c'est un parcours classique.
Alors, je ne sais pas s'il y a forcément un seul parcours classique, mais effectivement, pour certaines personnes, le fait de progressivement augmenter les dosages, puis aussi de changer de mode de consommation, ça, je dirais que c'est quelque chose d'assez classique. Après, la période de temps, elle peut être assez variable. Il y a des personnes pour lesquelles ça peut prendre... Enfin, là, pour lui, en tout cas, ça prend très peu de temps. Il y a des personnes lesquelles ça peut prendre un petit peu plus de temps.
Comment agissent ces drogues, c'est classiquement sur le système de récompense ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elles vont augmenter artificiellement des hormones dans le cerveau, donc la sérotonine, la dopamine. Donc la dopamine, notamment, c'est vraiment l'hormone du système de récompense. Alors, ce n'est pas l'hormone du plaisir, mais en fait, c'est l'hormone qui va ancrer très fortement dans la mémoire le comportement, puis qui va en fait progressivement attirer en fait la recherche de la répétition de ce comportement, puis réduire l'intérêt pour les autres comportements.
Et paradoxalement, ces substances ont tendance à empêcher l'érection ?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, elles vont plutôt bloquer l'érection. Par contre, l'éjaculation et l'orgasme sont préservés. Mais c'est aussi ce qui incite les consommateurs souvent à utiliser d'autres substances. Donc par exemple, le Viagra, en tout cas des substances qui vont stimuler l'érection, avec des risques d'interaction.
Quels sont les risques à court terme avec ces nouveaux produits, ces nouvelles drogues ?
Alors, je dirais qu'il y a trois grands types de risques. Il y a les effets un peu immédiats, physiques et psychologiques du produit. La déshydratation par augmentation de la température, des modifications cardiovasculaires qui peuvent entraîner un infarctus, de l'agitation, des états d'anxiété très importants, des pertes de connaissances. Ensuite, il y a des risques aussi qui sont liés au mode de prise. Donc, notamment le sniff ou l'injection peuvent entraîner des risques de transmission, d'infection ou des risques d'abcès ou d'altération du réseau veineux. Puis ensuite, il y a des risques aussi de surdosage. Il faut savoir que c'est des substances souvent qui se dosent au milligramme près, puis dont l'effet peut pas mal dépendre aussi de l'état de la personne. Donc effectivement, des surdosages qui peuvent être dangereux, voire mortels.
Vous l'avez dit, généralement, on ne prend pas une seule substance. Donc il y a aussi tout ce risque lié aux interactions.
Oui, exactement. Dans une session classique, il y a voilà, les substances qui aident au démarrage, l'alcool par exemple, puis ensuite la prise de cathidone, puis des substances vraiment pour la pratique sexuelle comme Poppers ou Viagra, et enfin des tranquillisants pour la descente. Ça, c'est un peu la session classique. Donc c'est particulièrement dangereux parce que les effets de toutes ces molécules en fait vont se potentialiser, pas seulement s'ajouter. Il y a des associations qui sont particulièrement létales comme le GHB, l'alcool ou le Poppers et le Viagra. Il peut y avoir aussi des interactions avec un traitement médicamenteux. Donc je pense voilà, c'est vraiment très important de bien se renseigner sur les effets des substances, sur les interactions. Il y a des plateformes comme Dr Gay qui donnent beaucoup d'informations là-dessus, puis aussi de se renseigner auprès de professionnels pour sa situation personnelle.
Donc on le disait, risque d'addiction à la substance, mais aussi risque d'addiction au sexe sous substance. Ça veut dire que pour les personnes addictes, il devient même impossible d'avoir des relations sexuelles sans substance.
Oui, alors ça c'est vraiment le propre de l'addiction, hein. C'est la réduction des possibles, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le comportement va se faire de plus en plus de la même manière, et aussi avec de moins en moins d'intérêt pour les autres expériences, donc en l'occurrence pour le sexe sans substance. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une addiction double en fait, à la sexualité et aux substances.
C'est un peu ce que va nous expliquer Loïc maintenant, hein, qui est un ex-adepte de Chemsex, qui témoignait dans Question Q.
Il n'y a plus de sexualité. Il n'y a plus de sexualité parce que le produit, il a fait disparaître la sexualité sans produit, donc du coup, qui dit plus de produit dit une peur bleue de reprendre une sexualité.
T'as peur de quoi ?
Moi, j'ai peur tout simplement de ne pas réussir à faire ce que j'arrivais déjà pas à faire avant les produits, c'est-à-dire à avoir de la pénétration, quoi. Et c'est pour ça que moi, je considère vraiment que je suis dépendant. J'ai une dépendance aux produits, à la drogue. J'ai une dépendance au sexe. J'ai une dépendance affective. C'est une maladie qui joue sur tous les domaines de ma vie. Vraiment tous les domaines de ma vie. Puis voilà, puis après, c'est les conséquences derrière. C'est-à-dire que si j'ai terminé ce que j'ai le lundi à midi et qu'à 13h je dois travailler, je vais travailler. C'est l'enfer. Quand je vais travailler, si je vais pas travailler, je mens. Si j'ai fini mes 3 grammes et que j'ai encore 2 jours de repos, moi, je vais pas arrêter, poser le truc et aller me coucher. Je vais absolument en chercher, en trouver encore. Là, par contre, c'est plus compliqué. Parce que je suis prêt à tout pour consommer du produit. Et voilà, et après, bah, c'est la chute parce que le corps, il peut pas supporter ça. Le corps, il n'est pas fait pour pas dormir 3 nuits, pas manger 4 jours, pas s'hydrater. Ouais, non.
Un grand merci à Loïc d'avoir accepté de la rediffusion de son témoignage. On l'a évoqué, donc, les risques, j'allais dire, physiques. Est-ce qu'il y a aussi, finalement, des risques psychologiques ?
Oui, tout à fait. On sait que la pratique du chemsex est associée au développement de problématiques dépressives ou anxieuses. Et puis, enfin, voilà, on l'a nommé aussi des problématiques d'addiction ou à plus long terme aussi des problèmes cognitifs, de mémorisation.
Et certains témoignages parlent également de rapports non protégés dans l'action et aussi parfois de violences aussi liées justement peut-être au mélange de toutes ces substances.
Oui, alors c'est aussi le propre de l'effet des substances. Hein, en augmentant l'impulsivité, elle augmente aussi en fait la baisse de la protection, enfin de la garde hein, par rapport aux rapports non protégés. Ça peut être aussi plus difficile de s'affirmer ou de s'opposer à un rapport ou à une pratique qui n'est pas désirée sur le moment. Donc ça, on a effectivement des témoignages qui vont dans ce sens-là.
Et qu'est-ce qui pousse en fait une personne à commencer le chemsex ? Il y a un problème à la base, un problème psychologique à la base ?
Alors je dirais pas forcément qu'il y a un problème, hein. Avant tout aussi la curiosité, la recherche d'expérience. Parfois quand même aussi pour aller surmonter des blocages au niveau sexuel, hein. C'était ce qu'expliquait Loïc dans le témoignage. Ouais. Quelque chose peut-être d'un petit peu plus préoccupant aussi, parfois une certaine injonction aussi hein, à l'épanouissement sexuel, à la performance physique qui est vraiment très forte dans la communauté gay. Puis ensuite, je dirais que c'est le risque d'addiction, hein, en revanche, qui va plutôt être dépendant à la fois du type de substance, puis de son potentiel addictif, puis aussi de la rencontre avec une personne qui peut avoir un facteur de risque, donc notamment une problématique anxieuse ou dépressive sous-jacente.
Le risque, c'est de trouver, comme le disait Loïc, sa substance vraiment, ouais. Et là, d'avoir un problème, quoi, après, à partir de là. Ouais.
Oui, c'est un peu une rencontre individu-substance-environnement.
Comment s'en sortir maintenant ? Ça passe le plus souvent par une thérapie ou bien est-ce qu'un groupe de parole suffit ?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Il s'agit de trouver un peu la bonne formule qui convient. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait face à l'intensité du craving, à l'intensité aussi des effets secondaires, il y a besoin souvent d'aide et de soutien extérieur. Donc ça peut être effectivement auprès d'un thérapeute pour engager une psychothérapie spécialisée, mais aussi des groupes de parole. Je crois que l'expérience aussi, puis les ressources apportées par les personnes qui sont passées par là sont extrêmement précieuses, puis déculpabilisent aussi beaucoup les personnes dans l'expérience qu'elles peuvent vivre.
Et ça passe souvent, par contre, par une période d'abstinence sexuelle ?
Oui, ça c'est quand même très souvent, hein, les personnes le décrivent. C'est vrai qu'il y a une telle association aussi entre la pratique sexuelle et puis la consommation de substances, qui a souvent besoin d'une période d'abstinence sexuelle, en fait, pour finalement retrouver un contrôle sur les consommations, mais aussi retrouver une sexualité sans substance.
Clara Fetenaou, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du milieu gay masculin. C'est vrai que c'est essentiellement dans ce milieu-là qu'est pratiqué le chemsex, mais dans d'autres milieux aussi, je ne sais pas, chez les lesbiennes ou chez des hétéros, ça se pratique aussi ?
Alors, on n'a pas vraiment de chiffres, notamment chez les femmes lesbiennes. C'est vrai qu'elles sont particulièrement peu visibles. On commence à peine aussi à développer des consultations de santé sexuelle spécialisées pour elles, notamment à Profa. Donc, je pense, comme il y a peu d'espace pour elles, finalement, on a peu de retours. Donc, on n'a pas vraiment de chiffres. Dans la population hétéro, c'est pareil. On n'a pas vraiment d'enquête. Maintenant, je ne vois pas pourquoi ces publics ne pourraient pas aussi être concernés. Notamment, je dirais, les jeunes publics qui sont souvent en recherche aussi, en expérimentation de substances.
Alors aux USA, le chemsex est considéré comme un problème de santé publique. Chez nous, on peut le dire, c'est un phénomène, mais qui n'a pas cette ampleur-là encore.
Alors non, pas cette ampleur-là. Maintenant, c'est vrai que les derniers grands chiffres solides qu'on a remontent à 2017. Il y avait quand même 30%, donc parmi les hommes gays interrogés en Europe et en Suisse, il y avait 30% de personnes qui avaient déjà essayé ou qui avaient une pratique occasionnelle. 7% qui correspondent quand même à des critères d'addiction, puis 2% qui utilisaient l'injection. Puis c'est finalement des chiffres déjà assez anciens parce que nous, on le voit aussi dans les consultations, notamment au Checkpoint, on a quand même une augmentation très significative des demandes de consultation depuis 2017-2018. Donc probablement que les chiffres seraient changés aujourd'hui.
Alors, augmentation de demandes de consultation, alors vous avez parlé de pourcentage parmi les gens qui pratiquent le chemsex, mais on chiffre absolu, en gros, ça concerne combien de personnes ?
Du coup, je ne saurais pas vous dire en chiffre absolu, non. J'ai ces pourcentages-là en tête.
Mais les gens qui vous demandent des consultations, quand vous dites qu'on a une forte augmentation, c'est en gros combien de personnes par année ou par mois ?
Alors en tout cas, de nouveau, j'ai une vision qui concerne un petit peu plus ma consultation. Donc je dirais environ un tiers de personnes. Donc c'est 4-5 personnes par mois, je dirais.
Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est un phénomène qui est surtout urbain ?
Oui, alors majoritairement urbain, qui concerne toutes les classes d'âge, mais plus spécifiquement aussi les moins de 40 ans.
Qu'est-ce qui est entrepris maintenant en termes de prévention ?
Alors, en termes de prévention, donc c'est les acteurs classiques de la santé sexuelle, mais aussi des préventions liées aux dommages des addictions, soutenues par le service de la santé publique, avec des acteurs comme l'Aide Suisse contre le Sida ou aussi la Fondation Profa. Puis, techniquement, sur le terrain, c'est avant tout des campagnes d'information pour le public cible, sur les lieux de rencontre, la mise à disposition de kits pour une consommation sécurisée, la mise à disposition aussi des traitements préventifs pour le HIV comme la PrEP, et puis aussi des groupes de parole, des espaces de rencontre entre usagers.
Eh bien, merci beaucoup Clara Fetenaou d'être venue nous parler du chemsex. C'est vrai que moi j'ai découvert, je ne connaissais pas, et c'est vrai que le témoignage de Loïc était particulièrement rude quand même. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute au Checkpoint Vaud de la Fondation Profa, et vous avez répondu à l'invitation de Stéphane Delétro. Je vous souhaite une très très bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
CQFD, tous les jours de la semaine, entre 10h et 11h.